par le sacrifice sanglant de Christ. Et ça, ça m'interpelle aussi. Comment est-ce que Dieu te voit aujourd'hui, lui qui est saint? Est-ce qu'il t'appelle saint ou est-ce qu'il t'appelle pécheur? Comment Dieu te voit aujourd'hui? Encore une fois, Ghislaine nous a parlé de ça la semaine passée. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit un saint, quelqu'un qui l'a sanctifié par le sang de l'agneau? Ou est-ce qu'il te voit pécheur parce que tu es encore collé avec tes péchés? Et voyez-vous, la manière dont Dieu nous voit devrait être reflétée par la manière dont nous nous voyons. Trop souvent, on se voit comme des pécheurs, des pauvres pécheurs qui produisent des péchés, puis qui ne peuvent pas faire autrement. Ils sont des pauvres pécheurs qui pêchent continuellement. Si le sang de Christ vous a sanctifié, vous a racheté, vous a mis à part, vous n'êtes pas ça devant Dieu. Vous êtes des saints. Puis des saints, ça reproduit le caractère de son Dieu qui est saint. Oui, ça se peut qu'il tombe dans le péché, mais c'est pas ça sa nature ni son identité. Il est un saint. Il est une personne dévouée à Dieu, consacrée pour Dieu. Vous voyez-vous comme ça? Vous voyez-vous comme ça le lundi matin puis le mercredi matin? Moi, je suis un saint. Je suis une personne que Dieu a séparée du monde pour que je le reflète. Je suis devenu un ambassadeur de Christ. Je suis un saint sanctifié par Jésus-Christ pour le refléter, pour vivre pour lui. Ce que tu es détermine ta conduite et ton éternité. Et si tu penses que tu es juste un pécheur, ça va déterminer ta conduite. Et malheureusement, ça va déterminer ton éternité aussi. Parce que ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux qui ont été sanctifiés. C'est ceux qui ont été rachetés. C'est ceux qui sont saints. Sommes-nous saints ou sommes-nous pécheurs? Ah, Paul, il dit, vous êtes, j'écris aux saints de l'église d'Éphèse. Et il dit au verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Au verset 14, « Pour célébrer sa gloire. » Vous êtes saints parce que vous êtes sur la terre pour célébrer Dieu, pour être engagés vers Dieu, pour célébrer sa gloire. Paul écrit aux saints et il écrit aussi aux fidèles en Jésus-Christ. Le mot « pistos » qui est là ici, on peut le traduire par « foi », on peut le traduire dans le nom, puis dans l'adjectif, on peut le traduire par « fidèle ». On a le choix. En anglais, c'est plus facile. En anglais, ça fait « faith », puis l'adjectif, c'est « faithful ».« Faithful ». La foi, puis « rempli de foi ». Celui qui est rempli de foi, nous, en français, on dit « fidèle ». Alors, la foi, d'abord, ça, c'est l'exercice de notre confiance. Tu sais, il y a des gens qui pourraient dire aujourd'hui, j'ai foi dans le système bancaire canadien. Ils pourraient dire ça. Ça voudrait dire, je fais confiance. Ils pourraient dire, j'ai foi en toi. Je suis prêt à te faire confiance. Et le chrétien est celui qui a exercé sa foi. C'est celui qui a foi en Jésus, qui lui a fait confiance avec sa vie. Mais le fait d'être rempli de foi, ça se manifeste par la fidélité. Et dit aux saints, aux chrétiens, mais aux fidèles, ceux qui sont pleins de foi, ceux qui sont pleins de l'exercice de leur foi, ceux qui manifestent la fidélité. C'est quoi la fidélité? Quelqu'un est fidèle lorsqu'il réalise ses promesses et ses engagements. Oui, j'ai entendu ça il y a un mois, là. Non, même pas un mois, le 20 septembre. J'ai entendu mon fils qui a dit ça. Tu sais, il a fait une promesse. Je te promets fidélité. Puis j'ai entendu ça à Naomi aussi. Elle a dit la même chose, j'étais bien content. Ils ont toutes les deux dit oui. Ils se sont promis fidélité. Et il peut dire, moi, je suis fidèle. Je réalise les promesses et mes engagements. La fidélité, c'est aussi l'attachement constant. T'sais, on dit d'un chien qu'il est un chien fidèle. Parce qu'il est attaché à son maître. J'ai reçu une belle lettre de Vidéotron cette semaine. Ils m'ont dit qu'ils remontaient mes prix pour l'année prochaine. Mais ils ont signé « Merci de votre fidélité ». Et que j'étais content. Ils ont dit « Ils savent-tu que je suis chrétien? » Non, ils voulaient dire « Merci de votre attachement constant à notre compagnie ». C'est ça qu'ils voulaient dire. Mais ils ont employé le mot « fidélité ». Un attachement constant. La fidélité, c'est la reproduction exacte de l'original. Vous achetez un système maison de son et c'est écrit dessus « haute fidélité ». Le son qui sort de cette boîte-là, là, c'est la représentation exacte de l'original. C'est de la haute fidélité. Hey, ces mots-là sont lourds de conséquences pour un chrétien. J'écris aux saints et j'écris aussi aux fidèles. Le saint, c'est celui qui a reçu puis qui manifeste la sainteté. Le fidèle, c'est celui qui a cru puis qui manifeste la fidélité au Seigneur. Le fidèle, il est fiable. Il est digne de confiance. Le fidèle, il demeure constant. Il demeure vrai dans son attachement à Jésus. Le fidèle, il réalise son engagement d'une bonne conscience envers Dieu, cet engagement-là qu'il a fait à sa conversion. Et l'Épître aux Éphésiens va nous montrer ces deux éléments-là. Dans les trois premiers chapitres, il va nous mentionner comment notre position en Christ, parce que nous sommes saints. Et dans les chapitres 4, 5, 6, il va nous mentionner notre marche en Christ, parce que nous sommes appelés à être fidèles. Le fidèle, là, c'est pas simplement celui qui appartient à une église ou qui participe à des cérémonies religieuses, un fidèle de l'église. Des fois, ça me frustre. Des fois, j'écoute les nouvelles, puis... Quand les nouvelles parlent des gens qui vont à l'église, ben c'est ça. Un fidèle de l'église, tel et tel, était là. Un fidèle, c'est... Ouais, ça on peut dire, mais ça veut... c'est pas parce qu'il est assis dans les bancs d'une église qu'il est nécessairement un fidèle. Le fidèle, c'est celui qui exerce sa confiance, qui est fiable, qui est constant, qui continue son engagement, son attachement à Jésus-Christ. Paul... aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Comment Dieu vous voit-il? Est-ce que le Seigneur vous voit comme saint? Ah, oh, ça c'est essentiel. Est-ce que le Seigneur vous voit aussi comme fidèle ou infidèle? Est-ce que ma vie, est-ce que nos vies sont caractérisées par notre attachement à Dieu plus qu'aux valeurs du monde? Est-ce qu'on tient notre engagement de fidélité au Seigneur en reproduisant fidèlement les qualités de son caractère dans nos vies? Est-ce que c'est d'une importance capitale que je sois un chrétien de haute fidélité qui reflète l'original le mieux? Suis-je fidèle ou infidèle? Oh, Jésus disait dans Luc chapitre 12, verset 43, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera fidèle. » Fidèle. Paul, il est un ambassadeur. Il écrit à des saints. Il nous écrit à des fidèles. Et il souhaite deux grandes bénédictions de la part de Dieu. Il souhaite aux croyants la grâce et il souhaite aux croyants la paix, la grâce. Oh, que Dieu déverse ta grâce sur eux, sur les croyants de Beauport. C'est quoi la grâce? Oui, c'est une faveur imméritée. Si Dieu nous faisait du bien, juste sur la base de nos mérites, on n'irait pas loin. Mais Paul prie que Dieu déverse sa grâce, sa faveur imméritée. Et ça, ça me donne le goût d'avancer. Parce que soudainement, je réalise que moi, je suis infidèle. Dieu est fidèle, mais moi, je suis infidèle. J'ai besoin encore de la grâce. Et c'est ce que Paul demande à Dieu, de bénir les croyants de la faveur imméritée de Dieu, de ceux qui méritent son jugement, qu'ils reçoivent sa faveur à la place. Et la grâce est une faveur qui est libre de toute attache. Je te donne pas, mais t'as besoin de me, je te donne, mais t'as besoin de me redonner ça en retour, là. La grâce de Dieu est sans attache. Elle est libre. Elle provient d'un cœur généreux de Dieu. La Bible dit que Dieu, il aime à donner à tous, simplement ou généreusement et sans faire de reproche, dit Jacques, chapitre 1, verset 15, verset 5. La grâce qui s'est d'abord manifestée au calvaire pour notre rédemption, comme on a lu dans Ésaïe 53 tantôt. Alors qu'on était des ennemis, voyez-vous, là, quelquefois on pourrait dire, je fais grâce à un ami. Tu sais, il me doit 5$, mais je vais lui faire grâce. Tu sais, c'est mon chum après tout, hein? Il ne mérite pas, mais je lui fais grâce. Mais feriez-vous grâce de votre vie à un ennemi, à quelqu'un qui veut vous faire du mal, qui vous a fait du mal? La Bible a dit, Dieu prouve son amour envers nous, sa grâce envers nous, en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, des ennemis, Christ est mort pour nous. Une faveur imméritée, une faveur libre de toute attache. Et cette même grâce de Dieu qui nous a sauvés, elle continue de se déverser sur le croyant. Paul va employer un peu plus tard dans Éphésiens 4, 7, selon la mesure du don de Christ. Dieu, Jésus, continue de déverser sa grâce sur le croyant. Et c'est la prière de Paul pour les croyants. Sa grâce et aussi sa paix. Sa paix, Irénée, la notion de base de paix, c'est la notion de joindre deux morceaux. La notion de réconcilier, la notion d'apporter l'harmonie, d'apporter le bien-être. Ça, c'est la paix. Et d'abord, Dieu nous a fait la paix avec lui. La paix avec Dieu. Étant donc justifié par la foi, Romains 5, 1 dit, nous avons la paix avec Dieu. Les morceaux sont joints. On était réconciliés. Et ça, c'était réconcilié par Jésus à travers le sang de sa croix. Colossiens va nous dire, il est notre paix. Il a établi la paix par le sang de la croix. Jésus, par le sang de la croix, nous a unis, nous a réconciliés, nous a joints. En réalité, il a joint chaque pécheur repentant au Dieu saint. Il a apporté la paix pour qu'on puisse avoir après ça l'harmonie, l'épanouissement. De cette paix avec Dieu découle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la Bible dit. Cette paix de Dieu, cet épanouissement dans nos relations avec Dieu au sein d'un monde qui est tourmenté. Par l'Esprit de Dieu, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Paul dit, je vous souhaite de la part de Dieu sa faveur imméritée sans attache. Je vous souhaite de la part de Dieu cette harmonie, cet épanouissement personnel. Parce que vous êtes en paix avec Dieu, recevez donc la paix de Dieu. Souhaitons-nous grâce et paix à ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on accueille de notre part dans notre vie de tous les jours cette paix, cette grâce? Est-ce qu'on vit dans sa grâce? Est-ce qu'on vit dans sa paix? Oh, ce matin, à travers le texte, on a bien raison de rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa grâce qui nous a sauvés puis qui a fait de nous des saints. Rendons grâce à Dieu aussi pour son appel à notre égard qui a fait de nous maintenant ses ambassadeurs. Rendons grâce à Dieu aussi pour le plan de Dieu qu'il a pour notre vie parce qu'il veut nous reproduire fidèlement à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Rendons grâce aussi pour la paix de Dieu qui a brisé le mur de séparation entre Dieu et nous et qui maintenant développe cette intimité avec nous. Oh, rendons grâce à Dieu, bénissons-le, comme le texte dit au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oh, ce matin, on va partager la table du Seigneur. Un élément crucial de rendre grâce, de cette une grande bénédiction spirituelle en Christ, notre rédemption. On a l'occasion aussi de le faire de façon pratique à travers notre offrande d'action de grâce. Ce sont tous de bons moyens de bénir Dieu, de lui rendre grâce. Oh, Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette épître qu'on va étudier dans les semaines à venir, qui va nous parler des bénédictions que nous avons reçues dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, rends nos cœurs reconnaissants de ce que nous avons. Garde nos yeux fixés en haut sur ces richesses que personne ne peut nous enlever, qui ne tarissent et ne ternissent jamais. Seigneur Dieu, et reçois en retour notre gratitude, notre fidélité à te refléter comme ambassadeur, à nous attacher à toi pour goûter jour après jour ta grâce et ta paix, de manière qu'on puisse la communiquer à d'autres, ta paix, ta grâce, parce que nous sommes tes ambassadeurs. Ô Seigneur, merci pour la table qui est devant nous, qu'elle puisse être encore un rappel de ton amour pour nous et une motivation profonde à te rendre grâce pour toutes choses. Et on te loue au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce. Avec la table du Seigneur, on aura l'occasion d'adorer aussi. Justin va venir pour nous conduire, d'adorer puis de rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous, particulièrement à la croix.